Alors bienvenue à tout le monde. Merci Seigneur pour cette assemblée aujourd'hui. Des nouveaux visages, des visages que je connais. Bienvenue à tout le monde. Voilà. Soyez bénis. Shalom. Voilà. Donc le dernier message que j'avais fait, c'était au mois d'août. Et j'avais fait une petite introduction avec un camion. Et je voudrais refaire cette introduction avec ce camion anglais. C'était l'époque du foot, enfin de l'euro, et donc il y avait des Anglais à Lille. Et il y avait un camion qui était devant moi, je travaillais, et sur ce camion, sur la ridelle arrière, il y avait une grande inscription qui était en anglais, et connaissant pas l'anglais, je suis allé sur Google ensuite pour faire la traduction, et il était écrit « Jésus est la solution à tous nos problèmes ». Voilà. Et ça me suit, je me dis, oui, il y a des messages comme ça dans la rue, des messages du Seigneur qui nous guident et qui, et voilà. Et après, j'avais un rêve aussi, je me souviens, j'avais parlé d'un rêve dans un train dans lequel j'étais, et ce train nous amenait tous vers la victoire, vers la vie éternelle. Il y a des chemins comme ça, des trains et des camions qui nous guident et qui nous envoient vers quelque chose, vers une destinée. Voilà. Après, il y avait les témoins de Jéhovah. J'avais rencontré deux témoins de Jéhovah et ils sont revenus. Et ils sont revenus à la maison. Et j'avoue que j'avais un petit sentiment de vouloir les convertir. Et ben, j'ai pas réussi. Ils sont puissants. Ils ont la parole de Dieu. Ils vous répondent systématiquement avec un verset. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu veux me dire dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu veux m'apporter? Et les témoins de Jéhovah vous donnent toujours des petits bouquins, des petites choses. Ils m'ont donné deux cette fois-ci. Ouais, j'ai grandi, hein. La première fois c'était un et aujourd'hui c'était deux. Et, j'ai lu le premier, c'est un peu le même genre que la première fois, une petite revue, et j'ai tout lu. Et j'étais un petit peu embarrassé parce que les messages sont tout à fait corrects, c'est très très bien fait. Mais en lisant ça, je me disais, mais qu'est-ce que les témoins de Jéhovah me proposent? Et j'avais l'impression qu'ils me proposaient un catalogue de bien-être. Venez à Dieu, il va vous rendre la liberté, la joie, une vie saine. Oui, tout ça, c'est vrai que c'est Dieu nous apporte ça. Mais je me disais, où est la bonne nouvelle? Jamais ils n'ont parlé dans ce petit livret de la bonne nouvelle. Où est Christ? Où est le Christ sur la croix qui nous a enlevé le péché du monde? Et ça c'est pas dit. Alors, j'aurais posé la question parce que quand ils sont venus dans le premier petit livret que j'avais lu, il y avait cette même sensation et je leur avais dit, mais qui est pour vous Jésus? Eh bien, ils m'ont répondu de façon académique que Jésus, ben voilà, il était le sauveur, etc. Mais j'étais d'accord avec eux. Mais je dis, mais il y a un truc quand même qui cloche dans ce qu'ils annoncent dans leur livre. Il n'annonce jamais la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Christ est vivant pour nous, qu'il a ôté le péché du monde pour nous, qu'on est libre. Non, il vous apporte des solutions avec Dieu pour un bien-être, comme un catalogue, comme s'ils étaient des représentants du Seigneur, de Dieu. Voilà, mais bon, je suis en chemin avec ça. Et Dieu me met aussi en chemin parce que cette semaine, en allant au restaurant à midi, au Croisé-la-Roche, l'ancien Inno, petit restaurant, hein, vous voyez à peu près où ça se trouve, je me présente, je monte trois marches, et sur une des marches, un petit livret. Bon, je le reconnais, c'est un petit livret que m'a donné les témoins de Jéhovah, qui est un peu plus consistant, plus petit, mais qui est Dieu? Et j'avais commencé à le lire, mais je n'avais pas continué. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Tu veux que je lise ce petit livre? Ou alors, un autre message, les témoins de Jéhovah sont très très actifs. Alors, voilà. Bon, on tourne la page avec les témoins de Jéhovah. J'ai une nouvelle à vous annoncer concernant ma petite voisine de Los, qui m'avait relancé plusieurs fois en me disant, mais donnez-moi une adresse pour où je peux prier, etc. Donc, on s'est vu il y a 15 jours, et puis Ah, monsieur, vous avez oublié de passer, vous n'avez pas encore mis l'adresse où je peux aller prier. Je lui donne la petite étiquette de source de vie, hein, notre église. Je dis voilà. Et on a pris rendez-vous pour le mois d'octobre. Elle va venir ici. Et son mari, elle va essayer de faire venir son mari. J'ai rencontré son mari. J'ai dit, écoute, Patrick, viens, parce que vraiment, il y a quelque chose pour toi. On verra. Hein, le Seigneur est en chemin avec ce couple. Voilà. Ça, c'était mon introduction. Et je vais commencer donc mon message. Alors, c'est un message qui est tiré de Claude Wood. Donc, c'est un livre. Et j'étais beaucoup frappé et inspiré par ce livre. Donc, je vais m'en inspirer beaucoup. Et en prenant aussi des exemples dans notre église. Donc, on va prendre la lecture. Oh, pardon. On va prendre la lecture de Luc 17, 5. C'est très, très rapide. Les disciples dirent au Seigneur, augmente notre foi. Et dans Hébreux 11, 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et notre foi commence par une révélation. Notre foi commence par une rencontre avec le Seigneur. Chacun d'entre nous ici avons rencontré notre Seigneur à un moment ou à un autre et a bouleversé notre vie. Voilà, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais cependant, dans le monde d'aujourd'hui, il y a un péché, le péché d'incrédulité, qui est parmi nous et qui est dévastateur. Pour nous, pour les chrétiens, c'est quelque chose qui nous égorge, qui nous aveugle, sournoisement. Ça nous endort, ça nous lie. Et peu à peu, on perd la cible, c'est-à-dire qu'on perd Dieu de vue. Il y a des experts missionnaires hein, qui ont fait des études et qui ont dit qu'il y avait eu plus de convertis de 1980 à ce jour que de Jésus-Christ à 1980. Ça veut dire qu'il y a un réveil exceptionnel dans le monde entier. Voilà. C'est un très grand réveil. À part que en Europe et en Amérique du Nord, eh ben, on a eu dans le passé un très grand réveil, de très grands réveils, et là, on dort. Voilà. Et voilà. Donc, on pourrait dire, je suis reconnaissant hein, pour ce que Dieu a fait dans le passé pour nous, pour l'Europe, pour l'Amérique du Nord, ce qu'il a fait. Mais je suis aussi reconnaissant pour ce qu'il a fait ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire en Afrique, en Corée, en Amérique latine, en Chine, et tous ces pays qui sont derrière le rideau de fer, qui se réveillent à la fois. Mais moi, mais vous, on est à Wavrin, nous sommes en France, et on dort. C'est pour ça que je pense qu'on doit, je dois, et nous devons nous repentir pour cette incrédulité qui nous a endormis, qui nous endort. Bien sûr qu'on a cette part de Jésus qui est en nous. Et moi, je suis baptisé là, de nouveau, il n'y a pas longtemps. Il n'empêche que, sournoisement, nous sommes endormis. Et cela nous fait accepter quelque chose qui est intolérable. Partout sur la terre, c'est le réveil. Et nous, on dort. Je dirais qu'on est dans la disette spirituelle. Il n'y a rien. Et l'incrédulité est lourde de conséquences pour nos jeunes, pour nous aussi. Il y a quelque temps, il y a peut-être un an maintenant, parce que je travaille avec des collègues jeunes, et régulièrement je leur parle de ma foi. Et Alex, je lui avais parlé de ma foi, en ce en quoi je croyais, en Jésus, Jésus-Christ, qui était venu pour moi, pour me sauver. Mais pas que moi, j'essayais aussi en même temps de susciter chez lui une réaction. Et quand je lui ai dit, voilà, Jésus est ressuscité, oui, c'est pour ça qu'il a accepté, parce qu'il a eu une... Il a été dans les églises catholiques, il a été baptisé, etc. Il a suivi une formation, mais petite. Et après, il a quitté, comme beaucoup de jeunes, l'église. Mais quand je lui ai dit que Jésus-Christ allait revenir, alors là, c'était trop. Non, Jésus-Christ, ben, il me dit, tu crois à ces sottises? Tu crois ça? Mais oui, je crois à ça, moi. Eh bien, Jésus pleura pour l'incrédulité de ses disciples et des gens de son époque. Parce que il y avait un manque manifeste de confiance en lui. Il pleura pour les proches de Lazare et de la foule qui l'entourait. Il pleura devant le refus de croire en sa personne de puissance et de résurrection. Il pleura sur eux aussi, sur les multitudes futures, c'est-à-dire nous, aujourd'hui. Il pleura aussi sur Jérusalem. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Il est tout puissant. Dieu souhaite pour le monde, pour notre pays, faire ce qu'il fait ailleurs pour nous. Mais devant lui, devant Dieu, se dresse un gouffre d'incrédulité, sournoisement, qui prend nos cœurs. Eh bien, je demande, Seigneur, augmente notre foi. Augmente. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Jésus-Christ confronta l'église de Laodicée, qui représente aujourd'hui l'église de notre temps, l'église de fin. C'est un... voilà. Et il nous donne un avertissement. C'est dans Apocalypse 3, 16 à 18. Si tu ne te repens pas, je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, pour que tu nous vomisses? Vous rendez compte? On est là, Seigneur. L'église de Laodicée, l'église de la fin, des temps de la fin. Pourquoi tu viendrais nous vomir? Apocalypse 3, 16 à 20. Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu te considères repu, satisfaite et n'ayant besoin de rien, je te conseille d'avoir du zèle et de te repentir, c'est-à-dire de changer de direction. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Formidable. Mais Jésus frappe à notre porte tous les jours, ici à l'église de Wavrin, mais ailleurs aussi, et chez nous, à notre porte, il frappe. Est-ce qu'on ouvre la porte? On a un gouffre d'incrédulité entre lui et moi et vous, et voilà, on a quelque chose à travailler ici. Ce message s'adresse à nous, hein, bien sûr. On est tranquille, assez satisfait de la portion de Dieu que nous avons. Jésus nous dit, laissez-moi entrer, repentez-vous, j'ai soif d'un peuple qui marche avec foi, qui se confie entièrement en mes promesses. Un peuple dont la foi lui permet de voir l'invisible, de croire l'incroyable et de recevoir l'impossible. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je le crois, mais il faut, je le crois en parole, mais après, il faut le faire. C'est ça qui n'était pas si facile. Il peut y avoir dans nos églises des louanges, des bâtiments magnifiques, une assiduité à l'église, des sermons, des programmes, des œuvres humanitaires, des confessions religieuses. L'apprentissage de versets bibliques, tout ça est bien, oui. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Voilà. J'irai pas de vernis. Il faut être brut. Jésus nous dit, lorsque simplement on se tourne vers lui, avec une vraie foi, sincère et désespérée, voire désespérée pour certains, Jésus nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Vous croyez ça? C'est très très fort. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ou alors il dit encore, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Ben moi ça me bouleverse ça parce que, Seigneur, voilà, que ta foi soit grande. Sans la foi, il est impossible de posséder. Lecture Hébreux 11, versets 1 et 2. Lecture Hébreux 11, versets 1 et 2. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est seulement par la foi que les anciens ont reçu ou possédé un bon témoignage. Alors, je me tourne vers chacun d'entre vous. Avez-vous un bon témoignage? Je pense que oui, vous avez chacun un bon témoignage. Chacun avait rencontré le Seigneur. Chacun a des choses à dire dans sa vie, concrètement. Mais avez-vous un bon témoignage? On a un témoignage, mais un bon témoignage. J'ai cherché dans l'église qu'on avait comme bon témoignage, qui possède en plus. Parce que c'est ça aussi, il faut avoir des bons témoignages, mais qui possède. J'ai pensé à toi, Jean-Luc et Annette. J'ai pensé à vous deux. Vous avez un témoignage qui possède. Vous avez reçu une vision il y a 20 ans, 25 ans. Pour cette église à Wavrin, ou plus. Alors, vous étiez pas seul à avoir cette vision. Vous étiez un groupe. Oui. Mais qui a porté cette vision? Annette? Jean-Luc? Une poignée d'autres? Vous aviez une vision pour cette église. Regardez aujourd'hui. On a un bâtiment. On l'a payé. L'année dernière, c'est fini. Amen. C'est un bon témoignage qui possède. Vous possédez l'église, mais nous possédons l'église. Merci, amen, Seigneur. Tu nous donnes quelque chose. Un bon témoignage, c'est effectivement ce que vous avez, vous, vécu dans la relation avec le Seigneur, mais aussi un bon témoignage qui possède, c'est une réalité physique dans le monde. C'est du monde, des gens qui sont là, des âmes qui sont là, qui prient le Seigneur, mais c'est aussi des choses qui se sont construites. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que les anciens, on pourrait vous appeler les anciens, puisque vous, anciens pasteurs, vous avez légué maintenant au suivant de continuer, de perdurer, de croître. Il y a aussi le deuxième exemple, c'est Robert et Sylviane. Le Château Blanc. Là aussi, une vision. Là aussi, quelque chose qui vient de loin. Et un bon témoignage qui possède. Là aussi, vous n'étiez pas seul pour avoir cette vision. Vous avez été soutenu, mais il fallait y croire. Et c'est cette vision, vous ne l'avez jamais laissée tomber. Ni Jean-Luc, Annette, ni Robert, ni Sylviane, ils n'ont laissé tomber. C'est une confiance qui n'abandonne jamais. Par la foi, Jean-Luc, Annette, Robert et Sylviane ont obtenu un témoignage qui possède. Est-ce que vous comprenez que sans la foi, il est impossible de posséder? On va faire une lecture, Hébreux 10, 23, 35, 39, Hébreux 11 et 2. Donc je vais faire un raccourci, j'ai noté, parce que sinon on va aller trop loin. Mais du coup, j'ai fait un assemblage. Confessons notre espérance sans fléchir. N'abandonnez donc pas votre assurance qui vous permettra de posséder une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous puissiez posséder ce qui vous a été promis. Car mon juste vivra par la foi. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes plutôt de ceux qui, par la foi, voulons posséder un bon témoignage. Donc pour notre génération et pour les suivantes, nous voulons, comme les anciens, avoir une foi qui éclaire, qui donne une direction à tous ceux qui en ont besoin. Sans la foi, il est impossible d'établir un peuple qui connaît Dieu. Je crois qu'il faut se souvenir des gens qui sont des modèles pour nous, qui connaissent la parole de Dieu et qui nous guident. Paul nous dit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, versets 7 à 8, « Pensez à vos chefs qui vous ont prêché la parole de Dieu. Voyez comme ils sont morts et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, éternellement, est toujours le même. » Ces paroles sont pour tous les chrétiens. Tous, chacun d'entre vous, avons une sphère d'influence auprès de nous. Nous avons une destinée, et personne d'autre ne peut le faire que vous-même. Parfois, nous disons, ne regardez pas à l'homme, regardez à Christ seulement. Parfois, on dit ça. Pourquoi pas ? Regardons à Christ. Les hommes sont toujours faillibles, imparfaits. Mais Paul nous dit que nous portons un trésor parfait et éternel dans des vases de terre. Il faut qu'on regarde à l'homme. Parce que en regardant à l'homme, on devient responsable. Responsable de notre appel biblique premier à communiquer la foi, l'amour, le pardon, la pureté, la générosité et un cœur pour Dieu et son Église. Et ça pour nos enfants et pour nos proches. Paul nous dit, suivez-moi comme je suis le Christ. Waouh ! Ouais, Paul nous dit ça. Et on pourrait dire que de proche en proche, on se suit les uns les autres. Donc nous avons une responsabilité. Nous avons tous une sphère d'influence autour de nous. Une petite histoire pour illustrer ce que je vais dire. C'est un homme travailleur, difficile. Toutes les semaines, il reçoit son salaire. Et cet homme, une fois qu'il a reçu son salaire, il va à la taverne, il va boire un coup. Et là, c'est un moment incroyable, inimaginable. Il arrive dans cette taverne, il dépense son argent. Il a oublié les promesses faites à sa femme. Payer le loyer, il a oublié. Donner à manger aux enfants, il a oublié. C'est une catastrophe. Et là, ce jour-là, il part. Il part de la maison, il neige, il fait froid. Il s'en va à la taverne, il va tout dépenser. Il entend un bruit derrière lui. Il se retourne, c'est son enfant, son garçon qui le suit. C'est un petit garçon qui suit les pas de son père. Vous comprenez ? On suit. On a quelqu'un derrière nous qui nous suit. Nous sommes responsables. Chacun d'entre nous conduit quelqu'un quelque part. Prenez-en conscience. La foi exprimée avec une repentance, c'est refuser d'être un Habacuc. La Bible nous dit qu'il était un homme qui servait Dieu. Son nom signifie accroché à Dieu ou encore enlacé à Dieu. Moi, j'aime beaucoup Habacuc parce que je trouve que c'est une bonne image de moi. Je suis enlacé à Dieu, accroché à Dieu, oui. Ah ouais. Habacuc, au moment de, il a vécu, ses contemporains avaient, beaucoup de ses contemporains avaient abandonné toute croyance en Dieu. Ils vivaient un peu comme aujourd'hui, tous les, voilà, n'importe quoi, accrochés à des idoles, à des fausses croyances, ou pas de croyances du tout, enfin bref, pas de Dieu dans leur vie. Lui, Habacuc, il disait: non, je resterai fidèle, je ne plierai pas le genou. On va voir la lecture, Habacuc 2, verset 1. On peut y aller parce que après il y a, ouais, il y a d'autres versets sur Habacuc. Donc Habacuc, chapitre 2, verset 1. Je me tenais à la tour, à mon poste. J'étais prêt à continuer fidèlement, à tenir ma place, à rester au poste comme une sentinelle, à traverser vent et marée. C'est superbe, c'est magnifique. Combien d'hommes et de femmes comme nous qui avons des choses comme ça, on va tenir. Mais la vie fait que c'est difficile. On a des épreuves. Et ça revient tout le temps. Et Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Habacuc, sournoisement, son âme a été attaquée. Son âme a été touchée. On va lire la suite. Toujours Habacuc, chapitre 2, verset 1. J'attendrai de voir ce que Dieu me dira et comment je répliquerai avec mes plaintes. Oh ! C'est un moment incroyable. Habacuc va répliquer avec des plaintes sur ce qu'il vit. Il croit en Dieu. Il dit, il croit plus que Dieu dit en disant, quand Dieu lui dit les promesses, tu vas les avoir. Non, il croit plus parce que trop, c'est trop. Et dans votre vie, c'est pour certains d'entre vous. Trop, c'est trop. J'ai trop été, j'étais abusé, malmené, on me ment. Enfin, toutes ces choses de la vie qui peuvent vous arriver. Moi, je vais vous demander de ne pas juger Habacuc, parce que nous sommes nombreux comme lui. Dieu répond à Habacuc, et c'est un message pour nous aujourd'hui. Lecture Habacuc, chapitre 2, versets 2 à 4. L'Éternel me répondit avec ces mots: écris la vision, grave-la sur des tablettes afin qu'on les lise couramment. Car c'est une vision dont le temps et l'accomplissement sont déjà fixés. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Car mon juste vivra par sa foi. Oh. Il ne suffit pas d'être là, ici. C'est pas suffisant. Dieu nous demande de vivre et d'avoir un cœur visionnaire. Il faut une vision que Dieu va nous donner. Donc il faut être attentif à ce que cette vision va être pour chacun d'entre nous, une vision pour chacun d'entre vous. L'écrire, c'est-à-dire l'avoir sur le cœur, et elle va s'accomplir. Et si ça tarde, patientez encore, ça viendra. C'est écrit, elle va s'accomplir. Parce que le juste vivra par sa foi. Soyez juste, ayez cette foi inébranlable en Dieu. Lecture d'Ésaïe 43, 18 à 19. Voici, je désire faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtras-tu pas ? Ça nous interpelle. Voici quelque chose de nouveau qui va arriver, sur le point d'arriver. Êtes-vous prêt à recevoir cette vision pour vous-même? Êtes-vous prêt à exercer votre foi? Ça s'adresse à moi aussi, hein. Est-ce que je suis prêt à exercer ma foi par rapport à cette vision que je vais recevoir? Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente cette foi dans chacun d'entre nous, Seigneur. Dieu souhaite pour chacun nous donner cette vision spirituelle pour dépasser nos limites, les circonstances et les situations. Soyez bénis, mes frères et sœurs. La lecture de Luc maintenant. Ça concerne Simon-Pierre. Luc 22, 31-32. Luc chapitre 22, pardon, versets 31-32. En fait, Simon-Pierre, c'est au moment où Jésus leur dit à ses disciples qu'il va être arrêté, torturé, crucifié, mis à mort, et qu'il va le ressusciter. Et Simon-Pierre dit, « Seigneur, je serai jusqu'au bout avec toi. Je serai là, jusqu'à la mort. » Mais Jésus le voit avec une vision visionnaire par rapport à ce qu'il vient de dire. Et voilà ce qu'il dit. « Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te faucher comme les blés. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas en toi. Comme tu seras, quand tu seras revenu à moi, tu affermiras tes frères. » Eh bien, cette parole-là, elle est aussi pour nous, elle est un baume pour nos cœurs. Parce que je pense que pour certains d'entre nous, nous avons vécu ce que Simon-Pierre a fait. Jésus nous donne une solution. Jésus regarde Simon-Pierre avec des yeux prophétiques. Et il voit Pierre le renier 3 fois et le coq chante. Il voit Pierre pleurer amèrement sur lui-même. Il voit Pierre retourner à son bateau et au filet de son passé. Il voit Pierre dans un état de captivité et de désespoir. Il voit aussi Pierre 50 jours plus tard à la Pentecôte où il prêche et il affermit ses frères. Et c'est là que l'église chrétienne commence. C'est là que Pierre va ouvrir la voie pour les non-juifs. Imaginez Pierre, au moment où il a renié, au moment où il était vu par ses confrères comme quelqu'un de fini, il avait dit que jusqu'au bout il suivrait Jésus, il ne l'a pas suivi. Il s'est renié. C'est un homme fini. Spirituellement, rien. Non, Jésus nous voit avec des yeux différents. Vous avez une possibilité, même si vous êtes tombé. Vous avez une possibilité de vivre autrement. Une nouvelle direction. Une repentance. Changer de direction. Gagner la cible. Voilà. Jésus sait que Satan nous attend, il veut nous faucher, nous aussi. Jésus a pleuré sur ses disciples, mais il a aussi pleuré sur nous, sur les générations futures. C'est donc une prière. Il a prié pour chacun d'entre nous, pour que nous ne tombions pas. Et si on était tombé, de nous relever. Jésus a un regard prophétique sur chacun d'entre nous. Voilà. Donc, une petite prière. Voilà. Seigneur, c'est simplement par rapport à ce que je viens de dire. Je voudrais que chacun d'entre nous reçoive cette foi avec une repentance. Une foi pour plaire à Dieu, pour te plaire. Une foi pour posséder. Et une foi pour établir un peuple qui connaît Dieu. Amen. Soyez bénis. Shalom.